Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média J'ai un pote dans la com en partenariat avec Let's Sign It. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles ? Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Neyla Sanchez, directrice marketing de Subway France. Bonjour Neyla.
Bonjour Laurent.
Alors aujourd'hui, on va donner fin à ceux qui nous écoutent. On va parler de cette fameuse enseigne de restauration rapide qui doit sa réputation à un concept fort, la personnalisation des recettes qui sont préparées sous les yeux des clients en sub 15 ou 30, en wrap, en salade. Bref, Subway propose une offre adaptée à tous les goûts, sans oublier ses inimitables cookies. La marque développe également ses services digitaux qui s'inscrivent pleinement dans les tendances de consommation actuelles. Livraison, click and collect, programme de fidélité mobile. Bref, aujourd'hui, Subway compte 400 restaurants en France détenus et exploités par des franchisés indépendants. Et ce ne sont pas moins de 24 millions de Français qui créent des compositions à leur image dans ces restaurants chaque année. Donc une enseigne que, comme je le disais, nos auditeurs doivent très certainement connaître. Neyla, est-ce que pour commencer, tu pourrais me citer trois dates importantes dans l'histoire de cette marque ?
Alors, première date, ça va être 1965, puisque c'est l'ouverture du premier restaurant, donc la création de la marque Subway. Donc on a Fred De Luca, qui est à l'âge de 17 ans, pour financer ses études, a emprunté 1 000 $ au second fondateur, Peter Bulk, donc un ami de la famille, pour pouvoir se lancer dans la sandwicherie, de par ses origines italiennes, proposer des recettes qui lui rappelaient un petit peu son enfance, de ce que lui préparait Mama De Luca. Et donc, il est parti un petit peu sur ce format, ce qu'on appelle sous-marin, donc à la base, le submarine, qui reprend un petit peu la forme de notre iconique Sub 30. Et il a ouvert son premier restaurant qu'il avait nommé Pete's Submarines.
Ok.
Un petit peu en rappel justement à l'ami de la famille. Et en fait, très rapidement, il s'est rendu compte que Pete's Submarines, les gens entendaient pizza. Et il s'est dit qu'en fait, il valait mieux garder l'idée un petit peu de cette forme longiligne et de partir sur le métro. Et donc, Subway est né comme ça.
D'accord, ok, intéressant.
Donc, pour la première date, la deuxième date importante, ça va être 1974, qui a été le lancement en fait en franchise.
D'accord.
Donc, un peu le pionnier. Fred De Luca était le pionnier dans le secteur à se franchiser. Et c'est ce qui lui a permis, en fait, aujourd'hui, toute l'expansion qu'on connaît de l'enseigne et de pouvoir, en fait, se développer partout dans le monde. Mmh. Et la dernière date, je dirais 2023. Étonnamment, qui a marqué un vrai tournant pour l'histoire de la marque, Subway en France, puisqu'on a eu une refonte du modèle organisationnel l'année dernière, avec une vraie restructuration en interne pour mieux accompagner les franchisés. Et d'un point de vue plutôt externe, donc pour les consommateurs, on a lancé une gamme de recettes signatures qu'on appelle les séries, en complément de la gamme classique aujourd'hui qu'on connaît tous, Sub My Way, c'est-à-dire on fait le sandwich sur mesure.
Ok, donc deux dates un peu plus historiques dans l'histoire et puis un bond dans le temps puisqu'il y a ce renouveau avec 2023. Donc une marque a été lancée avec 1 000 $. Donc finalement, même en termes entrepreneurial, c'est quand même une success story notable. Merci Neyla, on comprend un petit peu mieux la création de Subway et l'intention de son inventeur. Alors déjà, le submarine, moi j'apprends déjà quelque chose aussi sur cette forme qui est effectivement iconique. Hein. On connaît les sub 30. S'il y avait trois mots qui décrivent Subway ou trois grandes valeurs, qu'est-ce que seraient ces mots ?
Alors en premier, on peut que parler de plaisir, puisqu'on propose un instant réconfort avec une offre variée de produits, d'ingrédients qualitatifs autour de recettes gourmandes. Le deuxième mot, ce serait l'accessibilité, donc de pouvoir proposer une offre pour tous les budgets et d'avoir une vraie accessibilité tarifaire. On part de menus à 8,40 jusqu'à 11 euros en moyenne en France. Et l'idée, c'est de pouvoir justement permettre à tous nos consommateurs de pouvoir venir régulièrement manger différentes choses à différents prix. Et le dernier mot, je dirais proximité, puisqu'on est vraiment une enseigne du quotidien et qui est à l'écoute de nos consommateurs, de nos franchisés. On est attentif à leurs besoins et l'idée, c'est vraiment de toujours créer cette connexion, de jamais la perdre pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir justement évoluer avec eux et leur proposer quelque chose qui leur convienne.
Oui, donc un maillage aussi qui permet justement, via les 400 restaurants que j'ai cités en introduction, d'être présent un petit peu partout sur le territoire. Eh ben écoute, Neyla, tu parles de plaisir. Ce souvenir que j'ai, moi, de Subway, enfin un souvenir, c'est plutôt une anecdote. Alors, je sais pas si c'est une volonté du marketing olfactif de se dire que voilà, quand il y a un Subway proche dans la rue en général, on le remarque, on le sent. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce qu'il y a une recette particulière? Qu'est-ce que vous faites pour nous attirer comme ça dans les restaurants?
Alors non, c'est pas une volonté particulière, mais c'est vrai qu'on sent un Subway de loin. Et en fait, c'est tout simplement l'origan, vu que nos pains sont cuits sur place et qu'ils sont topés sur place par les équipiers polyvalents en restaurant, qu'on appelle les sandwich artistes. C'est vrai qu'en fait, on a l'odeur de l'origan et du pain chaud qui s'émane de nos restaurants.
Eh ben, ça fonctionne très bien. Et puis, comme nos bureaux sont juste en face d'un Subway, on est assez rapidement et fréquemment happé par cette odeur. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui, Neila, pour vous distinguer justement de la concurrence? Alors, outre le fait qu'on sent un Subway plus facilement peut-être que d'autres restaurants, comment est-ce que vous travaillez pour vous démarquer de la concurrence aujourd'hui?
Alors, je pense que le premier mot qui vient à l'esprit de tout le monde quand on dit Subway, c'est vraiment la customisation, donc la personnalisation, qui est l'ADN de notre marque et notre singularité. C'est que tous les consommateurs qui viennent dans nos restaurants peuvent justement créer leur sub sur mesure, selon leurs envies du jour, de pouvoir créer un sub de A à Z. Qu'on est venu aujourd'hui, en fait, on a pu lancer avec notre nouvelle gamme signature. On a complété cette gamme de sandwichs sur mesure pour pouvoir aussi accompagner les clients qui ont peur de faire les mauvaises combinaisons d'ingrédients avec une gamme signature qui leur est proposée, avec toujours cette possibilité de venir customiser et personnaliser son sub à sa façon, à sa sauce.
Oui, c'est ça qui est assez étonnant et qui est plaisant aussi, c'est que on peut se raccrocher à une recette existante. Si on n'a pas l'inspi, on n'a pas le temps, on n'a pas envie de réfléchir. Et je pense que vous êtes une des seules enseignes peut-être qui propose justement des recettes types, mais finalement que, à mon avis, 90 ou 95% du temps, elles sont personnalisées. On enlève un ingrédient, on en rajoute. Tu as des chiffres là-dessus?
Alors, on a 80% aujourd'hui de notre gamme qui est forcément customisée, donc vraiment créée de A à Z par le client qui va choisir son pain, ses ingrédients, alors qu'ils soient d'origine végétale ou animale, de pouvoir ajouter son petit extra bacon au fromage, et puis après de garnir le tout avec les légumes qu'il aime. Et bien évidemment, la sauce qui va faire toute la différence. Ouais. Et on a maintenant, avec ce lancement de la nouvelle gamme signature, on a quasiment 20% en fait de notre clientèle qui soit est nouvelle et donc part facilement sur une des propositions, soit en fait des clients qui sont habituels et qui vont basculer sur une des recettes qui leur est proposée.
D'accord, ok. Bon, bah, c'est intéressant d'avoir un peu les stats là-dessus. Tu l'as dit en mentionnant aussi tout à l'heure l'accessibilité. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez au centre de votre stratégie ou comment est-ce que vous faites pour laisser une empreinte, une marque dans la vie d'un Français qui consomme Subway? Quel est le positionnement, quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'un Français qui a consommé un Subway ait en tête après cette expérience?
Alors, on a une vraie volonté de rester accessible d'un point de vue déjà tarifaire.
Ouais.
Donc, même malgré l'inflation, on a peu augmenté nos coûts, on n'a pas changé les formats, on n'a pas réduit les quantités non plus pour toujours proposer quelque chose de généreux et gourmand à un prix accessible. Et après, l'idée, c'est toujours de rester dans la promesse de l'enseigne, qui est d'être une enseigne du quotidien, d'être un vrai partenaire des Français et de pouvoir, en fait, leur proposer une offre qui correspond à leurs attentes et leurs besoins du jour, qui peut varier si je suis en lendemain de fête et j'ai besoin d'une recette un peu plus gourmande ou si je fais attention en ce moment et je vais juste prendre mon sub pour pouvoir combler, on va dire, mon apport nutritionnel du jour.
Ouais, et tu fais bien de citer, c'est marrant, tu as cité le mot juste avant que je rebondisse dessus en le disant moi-même, c'est cet aspect de gourmandise. C'est vrai que quand on consomme, on mange Subway, en général, on a cette sensation de voilà d'avoir bien mangé aussi. Et tu l'as dit aussi tout à l'heure par rapport à la proposition végétale, où là derrière, il y a des offres sur le marché où des fois, quand on prend la version végétale, bah, on a encore un petit peu faim après. Et chez Subway, en tout cas, j'ai la sensation que c'est beaucoup moins le cas ou pas le cas du tout. C'est que même si on prend une version végétarienne, on va avoir cette sensation de gourmandise et de se dire, bon, bah voilà, j'ai bien mangé. Et pour autant, j'ai pris une alternative en termes de protéines.
On a vraiment une offre qui est équilibrée, c'est-à-dire en termes de le pain, les légumes, la protéine, qu'elle soit végétale ou non. On a été parmi les premiers à lancer en fait un steak vegan, en plus de notre recette végétarienne qu'on propose. Donc, il y a en effet cet équilibre, justement, qui te permet d'avoir ce sentiment de satiété et de pouvoir avoir assez d'énergie pour finir ta journée.
Ouais, c'est ça. C'est comme je le disais, des fois, tu prends une alternative et bon, bah, tu sais qu'au goûter, faut prendre une petite collation, sinon tu vas pas tenir la journée en termes d'énergie. On va passer au volet de la publicité. Et c'est quoi le rapport à la publicité qu'a la marque Subway?
Alors, la publicité, c'est mon métier et c'est ce que j'aime. J'aime la publicité. Il y a deux mots qui me viennent en tête. Le premier mot, ça va être efficacité. On est une enseigne proche de ses consommateurs, proche de son audience. On est humble et ça se ressent dans notre ton, notre communication. On est simple. L'idée, c'est de pouvoir, en fait, rapidement délivrer le message qu'on souhaite faire passer à nos consommateurs pour travailler justement la présence à l'esprit. Donc, on va communiquer bien évidemment différemment, que ce soit en télé ou sur les réseaux sociaux ou via un média vivant comme l'événementiel, pour pouvoir justement connecter avec la cible et avoir un message efficace qui leur vient directement. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit, ça va être vraiment l'authenticité, donc être vrai. On a la chance justement dans notre enseigne qui est globale d'avoir complètement la main sur la publicité. Donc toutes les campagnes qu'on va développer et lancer en France sont franco-françaises.
D'accord.
Que ce soit pour les recettes qu'on va lancer, typiquement on a le sub raclette en ce moment, c'est pas quelque chose qu'on retrouve aux États-Unis ni en Angleterre.
C'est pas le groupe qui va dicter forcément.
Absolument pas. Et pareil pour le ton de la communication. Les spots, ils sont faits en France pour ce qui est des spots télé. Les réseaux sociaux sont gérés par des agences françaises. L'équipe, en fait, est franco-française pour délivrer le message et être au plus proche, justement, et être pertinent auprès de la cible quand on communique sur les différents touchpoints, en ayant à chaque fois la flexibilité d'adapter le message, que ce soit sur la télé, d'avoir le bon format, d'avoir les bons codes de la génération à laquelle on s'adresse.
Oui, les codes culturels sont importants à adopter et on reboucle avec... un des trois mots-clés que tu as cité, la proximité, en étant proche et du coup local, vous avez aussi cette proximité forcément avec vos consommateurs. Donc ça se tient, tu as parlé d'efficacité. Est-ce que c'est aussi sur l'aspect tracking derrière? Est-ce que vous mesurez du coup aussi l'impact des publicités, peut-être un petit peu plus que la normale?
Comme dans tout le secteur et pour tout marketeur, on est obligé de bien analyser nos campagnes, de traquer, de voir justement quels sont les différents KPI, donc les items de tracking, que ce soit sur le business, que ce soit en notoriété de l'enseigne, que ce soit l'impact sur les consommateurs, sur l'offre qu'on propose en tant que telle, puisqu'on va être énormément à l'écoute justement et attentif à ce que les consos pensent et veulent de notre marque et attendent de notre marque.
Et puis ça peut très certainement aussi nourrir l'efficacité de la campagne mise en place, puisqu'elle est faite localement. En ayant une analyse des chiffres, bah vous savez aussi quoi lancer, alors qu'il y a peut-être des groupes qui fonctionnent avec une analyse un peu moindre. En tout cas, vu que ça vient du groupe, du worldwide, bah finalement, il y a peut-être une dissonance entre les retombées et ce qu'on va sortir en termes de campagne ou en termes de stratégie locale. Donc, hyper intéressant de voir que cette boucle reste très locale et en tout cas française en ce qui vous concerne. Si on revient maintenant sur deux campagnes marquantes, dans l'histoire de la marque, on va citer ce que vous avez fait à l'occasion du GP Explorer et un pop-up store qui s'appelait Multiways. Est-ce que tu peux revenir sur ces deux activations de marque?
Alors, ces deux activations de marque qui ont lieu en septembre dernier, donc assez récentes. Et donc, pour la première, donc, on était partenaire d'une écurie sur la seconde édition du GP Explorer avec deux pilotes qui sont assez connus, donc Mr. V et Théo Juice. Et l'idée, donc, on a un petit peu créé la surprise. Et c'est ce qui est important pour nous, un petit peu, pour défendre sa place quelque part, d'être plus malin, plus bold, plus audacieux pour pouvoir émerger dans un paysage concurrentiel assez encombré. Et avec ce partenariat, dont on est très, très fiers, puisqu'on a eu une très, très belle visibilité qui a même dépassé nos attentes avec plus de 31 millions de reach et qui est estimé en valeur média à plus de 3 millions pour un investissement forcément moindre. Donc, on avait ces deux ambassadeurs de marque qui nous représentent bien. Donc, on était très fiers d'eux, très fiers des tenues, très fiers du casque et de la visibilité que ça a pu apporter à l'enseigne. Et puis, surtout d'avoir des ambassadeurs qui nous ressemblent, en fait, humbles, spontanés, positifs. C'est important pour nous, quand on travaille l'influence, notamment, de pouvoir avoir, d'éviter l'effet placement de produit et d'avoir une vraie collaboration et un partenariat avec les personnalités avec lesquelles on va travailler. Donc, cette opération, elle a été, dans le fond comme dans la forme, une vraie success story pour nous, puisqu'on a eu un vrai engagement, que ce soit en interne, de par les franchisés, de par les équipiers qui travaillent dans les restaurants.
Les choix qui ont été faits...
Complètement. Ils étaient à fond derrière la marque et aussi auprès des consommateurs, parce qu'on a créé la surprise aussi sur le terrain avec le food truck. Donc, ils étaient... assez déboussolé de voir un restaurant se vouer sur roue qui leur proposait des cookies et des sandwichs. Et puis, derrière, avoir une très belle visibilité sur les maillots que tout le monde... C'était vraiment assez bizarre de voir tous les gens, tous les spectateurs, en fait, porter un maillot Subway quand on marchait.
Et consommer du Subway, mais en tout cas pas dans son aspect alimentaire. Tu as cité bold et spontané. Je pense qu'avec un Mr. V, c'est effectivement pari complètement gagné. Tu as également parlé de l'intérêt, en tout cas le soutien de la part des franchisés, parce que c'est un enjeu quand on est un réseau basé sur la franchise. C'est que au-delà de se faire... une stratégie niveau groupe, en tout cas niveau France, il faut embarquer ses franchisés pour qu'ils bah, ils se sentent concernés par la campagne, ils se sentent impliqués. Donc, c'est hyper important, je pense, de fédérer son réseau de franchisés. Donc, je pense qu'on vous attendait... Je peux pas dire qu'on vous attendait pas sur un GP Explorer, parce que pour moi, ça a pas été non plus une forcément très grosse surprise de voir une marque comme Subway. En tout cas, c'était... Ah punaise, c'est bien de les voir arriver sur un dispositif comme le GP Explorer. Et en plus, avec les choix qui ont été faits en termes d'influence, je trouve que c'était quelque chose qui correspondait complètement à la marque. Si tu peux revenir maintenant sur l'expérience de fin d'année dernière de Pop-Up Store, tu peux nous en dire un petit peu plus?
Donc maintenant, ça fait donc c'est la deuxième édition d'un pop-up store. Donc l'année dernière, on avait lancé le Cookie Way. Donc pareil, toujours dans l'écoute de nos clients. Et on sait que nos cookies, il y a une vraie base de cookie lovers, des cookies Subway. Et donc, on avait ouvert un pop-up store en plein cœur de Châtelet où on proposait justement des recettes signatures de cookies qu'on ne retrouvait pas ailleurs en exclu. Et des cookies aussi qu'on pouvait venir créer à sa façon comme un sub en prenant une base de cookies, le petit nappage qu'on veut et... le topping également. Et donc, au vu du succès, justement, de ce média vivant, qui est vraiment de proposer une expérience complète, et on a souhaité, en fait, travailler de nouveau pour le lancement des séries, donc cette fameuse gamme signature, de travailler un pop-up store, toujours au cœur de Châtelet. C'est ancré dans notre ADN urbain, de pouvoir proposer une expérience complètement immersive. Et donc, dans le cadre du lancement de ces différentes recettes, on en avait 10 au total, de pouvoir, et chacune avait un univers culinaire, c'était de pouvoir, en fait, souligner « There's a new way to Subway ». Donc, il y a une nouvelle manière de commander chez Subway. Donc, on a toujours cette façon de pouvoir commander un sub à sa sauce, le sub My Way, et d'avoir la gamme signature. Donc, on arrivait un petit peu dans ce lieu qui était complètement insolite puisqu'il y avait deux entrées, enfin, deux portes.
D'accord.
Et soit on allait dans un chemin qui nous menait au côté sub My Way, où je venais créer un petit peu mon souvenir façon photocall. Et puis, derrière, il y avait d'autres portes avec, derrière chaque porte, un univers culinaire qui était en relation avec une de nos recettes.
D'accord.
Donc, on arrivait dans la salle Mexicali, où on avait de la musique mexicaine avec forcément ben, tout le décor qu'elle avait. On a travaillé également pas mal d'essences olfactives sur deux, trois salles pour vraiment en fait, faire voyager
d'accord.
d'une manière culinaire, on va dire, et donner envie aux consommateurs de pouvoir avoir envie de déguster, de goûter ces nouvelles recettes. Et les deux chemins se retrouvaient vers la cuisine, puisqu'on pouvait venir déguster deux des recettes qui étaient proposées, qui nous auraient plus marquées.
D'accord.
Et cette expérience-là, elle était payante. Donc, c'était 5 euros pour tous les participants et dont les fonds entièrement étaient reversés à l'association Copain avec qui on collabore de temps en temps.
Très bien. Et ça a duré, pardon, de...
Ça a duré 4 jours.
D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose qui va revenir cette année dans une version peut-être modifiée? Est-ce qu'on peut réussir à choper un petit peu d'informations en avant-première ou...
Alors, je ne vais pas tout dire. On a créé un rendez-vous, je pense,
d'accord.
avec le Cookie Way, le Multi Way. Donc, à vous de surveiller un petit peu la date de la rentrée. Exactement.
Ok. Ouais, donc, en fait, vous avez créé ce mood... personnalisé finalement un peu à l'image de ce qu'on fait quand on vient manger chez Subway. Finalement, on choisit sa recette, son envie, son inspiration du moment et vous l'avez retranscrit dans un lieu de vie éphémère pendant 4 jours et donc on se tiendra prêt pour regarder ce qu'il y a niveau annonce chez Subway.
On parle de pop-up store. L'idée, c'est vraiment de créer une expérience parce qu'on sait que ça crée un souvenir en fait et ça nous aide quelque part à faire émerger justement la marque de manière bold et maligne et de pouvoir surtout travailler la notoriété de l'enseigne qui derrière bien évidemment va se traduire en visite en restaurant. Mais c'est important pour nous de démultiplier en fait les différents canaux de communication et pas être simplement sur du média de masse et de pouvoir justement varier et on voit que l'event est quelque chose qui est plutôt porteur, parce qu'on va vraiment apporter une expérience particulière et exclusive au conso ou à l'audience, qui du coup va bien se rappeler de la marque et qui nous permet justement d'exister.
Ouais, on va un petit peu plus loin et on renforce toujours cette notion de proximité. On va plus loin, on incarne aussi peut-être un petit peu plus ce qui est peut-être dans ta tête et celle de tes équipes en termes de stratégie et de volonté. Lors d'un event, on arrive à plus facilement le communiquer puisqu'on le fait vivre directement et donc on peut percevoir des choses qui se perçoivent pas forcément toujours ou en tout cas pas avec le même niveau d'intensité quand on va faire une campagne en social, quand on va faire un spot, là on vit l'expérience de la marque. Et du coup, je pense qu'on va beaucoup plus loin et on marque beaucoup plus les esprits.
On va à leur rencontre, en fait. C'est tout le but de ces événements, c'est d'aller à la rencontre de notre public, de pouvoir toujours et encore travailler ce lien émotionnel, ce lien de proximité, puisqu'on est une petite équipe et que nos agences participent et que vraiment on va aller chercher le consommateur, chercher les informations auprès des consommateurs, puisqu'on incarne justement le public et l'audience à laquelle on s'adresse et qu'on veut éviter justement ce positionnement d'enseigne qui fait du top-down vers ses consommateurs et plus de faire partie en fait de la conversation et...
Ouais, c'est d'aller prendre le pouls, d'interagir avec avec l'audience, de voir comment est-ce qu'elle réagit à cette expérience, qu'est-ce qu'elle en pense, pour peut-être derrière retravailler aussi en interne certains axes de communication ou d'expérience en restaurant.
Complètement, c'est des labs pour nous.
Donc c'est fort d'apprentissage. Tu as mentionné les agences. C'est ma prochaine question. Comment est-ce que vous travaillez justement avec votre ou vos agences quand vous avez une idée, une intention, un moment dans l'année et que vous cherchez à activer justement vos consommateurs, l'audience également. Voilà. Est-ce que c'est des idées qui viennent de l'interne? Est-ce que c'est quelque chose que vous co-construisez avec votre agence? C'est quoi la relation que vous avez avec les agences?
Alors, on est complètement dans la co-création. On a des agences avec lesquelles on travaille depuis plusieurs années et qui nous sont fidèles et à qui on est fidèles. On est vraiment dans la co-construction dans le sens où on va arriver avec un brief très large, c'est-à-dire un rappel, bien évidemment, de la ligne stratégique et des enjeux business et des informations sur la recette. Le reste, le brief est co-créé et co-rédigé en fait avec les agences pour pouvoir avoir une continuité et un vrai storytelling d'une campagne à une autre et de pouvoir justement, donc tout le monde est impliqué, que ce soit les agences, le reste de l'équipe marketing, pour pouvoir en fait rédiger ce brief. Et c'est pareil dans l'exécution. On va vraiment avoir quelque chose qui est co-construit, qui est très participatif pour justement être au plus proche et de la pertinence de la campagne auprès des consommateurs. On a la chance d'avoir des belles agences qui nous accompagnent depuis, comme je disais, de nombreuses années et qui sont hyper impliquées. Elles sont engagées et qui ont un vrai affect avec la marque. Et ça, c'est hyper important. Dans le cadre d'un partenariat, on n'est pas simplement agence-annonceur. Il y a un vrai travail d'équipe et un vrai affect entre les différents interlocuteurs.
Oui, c'est pas juste on vous brief, on attend de votre part une proposition et on acceptera ou pas. C'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et on le fait ensemble.
Et challenger ensemble. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on va avoir aussi des agences qui nous challengent et qu'on va challenger également. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va construire et améliorer, être plus audacieux à chaque fois dans les lancements de campagne. C'est de se dire, allez, on y va.
Ouais. On y va et c'est agence annonceur, donc un travail itératif aussi sur quel est le brief finalement. C'est pas juste, tu l'as dit tout à l'heure, top-down envers les consommateurs. C'est un peu la même chose avec l'approche agence. C'est... voilà, on a quelque chose à faire, on doit faire quelque chose. Quel est le plan d'attaque? Qu'est-ce qu'on va raconter?
Qui reprend ce mot de proximité, encore une fois, que ce soit avec les consos, avec les agences, avec les collaborateurs, les franchisés, de toujours travailler ensemble. Ouais. C'est ce qui fait le mieux avancer.
Ça fait entièrement sens. D'ailleurs, est-ce que quand vous travaillez comme ça sur des expériences comme le Pop-Up Store, quand vous travaillez sur une opération un petit peu plus influence comme le GP Explorer, vous êtes accompagné par plusieurs agences? Ou vous êtes accompagné par une seule et même agence qui va être derrière vous?
Alors, sur le pôle influence, on est accompagné d'une seule agence avec toujours un mot d'ordre, c'est d'avoir de l'authenticité. Donc, on ne collabore qu'avec des personnalités qui aiment vraiment l'enseigne, qui consomment l'enseigne pour avoir un vrai message à apporter, que ce ne soit pas juste un placement.
Oui, un placement produit purement et simplement. Il faut que ce soit incarné aussi et toujours avec cette notion de proximité. C'est très clair. Je pense qu'on a une belle overview de la marque et de ce que vous faites et de votre proposition. Tu as mentionné l'aspect humain, ça se retranscrit comment? C'est d'accompagner un petit peu plus les franchisés, les équipiers au sein des restaurants. Comment est-ce que ça se matérialise?
En fait, c'est vraiment d'incarner ce côté humain et j'en suis la preuve puisque j'ai démarré il y a de nombreuses années en tant qu'équipière moi-même. Donc, en parallèle de mes études, j'ai été équipière, donc sandwich artiste dans le jargon Subway où je venais aider le conso à composer sa recette. Et puis, petit à petit, j'ai gravi les échelons jusqu'à arriver au poste où je suis aujourd'hui.
Ouais, donc c'est pas une valeur, c'est pas une intention, un engagement que vous prenez là aujourd'hui, c'est quelque chose qui était présent et qui existe depuis toujours au sein de Subway. Et une énième fois, on reboucle sur cette notion de proximité, c'est que quelqu'un qui vient et qui intègre la famille Subway finalement peut gravir des échelons, évoluer au sein de cette entreprise. Et c'est pas juste quelqu'un qui arrive pour une mission et puis qui va potentiellement faire autre chose, mais ailleurs, si possible de le garder, de le faire monter en compétence. C'est quelque chose qui est propre à Subway. Donc, on renforce une nouvelle fois cette notion de proximité. Pour l'avenir, qu'est-ce que ça donne? Quels seraient les engagements de la marque Subway dans les années à venir?
Alors, bien évidemment, le RSE, puisque dans le secteur, c'est encore un point important. Donc, on continue de travailler et d'évoluer, que ce soit sur les différents produits. Donc, on a lancé le jambon et le bacon sans nitrite. Donc, on est bien évidemment toujours dans un travail collaboratif avec notre supply chain pour réduire notre empreinte environnementale, réduire les packaging, donc même si on a une empreinte plus minime. Voilà, donc toujours dans la continuité de pouvoir plus travailler cet aspect-là. Et puis après, ça va être l'effort, il va être plus concentré sur l'humain. Encore une fois, pour reprendre la proximité. Et l'humain, ça passe par nos franchisés dans le quotidien, comment on va les accompagner. Et ça passe aussi par notre audience, donc principalement les étudiants. Donc, comment on arrive justement à mieux accompagner les étudiants en ayant une offre en fait accessible et en soutenant des associations comme Copains, avec qui on a déjà travaillé à deux reprises, et de pouvoir aller un cran plus loin avec des actions concrètes en soutien permanent. Donc, Copains, c'est une association qui lutte contre la précarité étudiante. C'est un sujet qui est toujours d'actualité, d'autant plus en ce moment. Et donc, c'est de voir comment nous, on peut les accompagner avec un soutien sur différentes choses. Donc, au-delà, en fait, d'avoir des distributions alimentaires, ils proposent aussi des mardis solidaires pour faire des dons de vêtements. Ils vont également aussi pouvoir travailler l'aspect juridique et aider les étudiants à trouver un travail. Donc, c'est là où Subway peut également les accompagner pour trouver justement des jobs étudiants pour aider ces étudiants à mieux s'en sortir. Et bien évidemment, toujours et encore auprès des consos, en ayant une offre qui répond à leurs besoins, à leurs attentes et à leurs contraintes aussi, que ce soit budgétaire ou autre, ou tout simplement alimentaire. Donc, de continuer d'évoluer avec des solutions concrètes et des partenariats toujours plus fun et audacieux.
Ouais, donc... continuer votre travail effectif sur, tu l'as dit, la supply chain, les approvisionnements, très certainement l'origine des produits, leur composition, puisque tu as parlé du sans nitrite, et renforcer toute cette notion de proximité. Cet épisode aura beaucoup tourné autour de la proximité et l'accessibilité, donc avec des actions qui font sens, avec notamment l'association Copains et peut-être d'autres associations qui rejoindront ce panel. Peut-être un petit peu plus d'expérientiel, du coup, si j'ai bien compris, c'était quelque chose qui avait plu et qui, je pense, a été impactant aussi pour la marque, en tout cas qui vous a aussi rapproché de vos consommateurs. Donc, on reste sur le qui-vive en ce qui concernerait une potentielle deuxième édition. Neila, on arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci à toi.
Quant à vous, j'espère que vous avez à présent aussi faim que moi et qu'on vous retrouvera prochainement dans un des 400 restaurants Subway. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt.